Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire qu'une solitude qui en rencontre une autre. C'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, lecture d'un petit livre à l'humour féroce, comme je les aime, Le cri du poisson rouge de Michel Picmal. Et je ne peux m'empêcher de penser un peu sottement qu'avec un nom pareil, il fut bien inspiré d'être écrivain plutôt qu'infirmier. Bref. Le livre est composé de 100 vignettes tragicomiques et impitoyables autour d'un homme nombriliste aux piètres ambitions littéraires. En voici quelques-unes. Enfant, il était persuadé que le monde entier l'attendait, qu'il y avait une place pour lui dans les dictionnaires. Il ne savait pas bien dans quelle rubrique, aventurier, homme de lettres, révolutionnaire, inventeur, musicien, mais il y avait nécessairement une page. Comme certaines familles ont un banc à leur effigie à l'église paroissiale. Dans son illustré hebdomadaire, il lisait avec passion la vie édifiante des grands hommes et s'imaginait par avance son propre destin glorieux relaté en 12 vignettes. Il voyait prophétiquement une rue à son nom, une avenue, un boulevard, un square au cœur de la ville où iraient jouer ses arrière-petits-enfants. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'il a commencé à se douter que le monde n'attendait personne. Les places d'honneur, il fallait se les gagner à la force du poignet. Ne connaissant pas la musique et plutôt casanier de nature, il a recentré tous ses efforts sur la gloire littéraire. Avec beaucoup de courage, il n'a pas désespéré. Mais, passé la trentaine, il se sent investi d'une fonction. Douloureuse, périlleuse, mais non dénuée de grandeur. Il doit témoigner, rendre compte, se retirer du monde pour mieux l'étudier, le juger. Il accepte ce renoncement. Ses petits-enfants seront fiers de lui. Il se statufie par avance. Rédige, larme à l'œil, sa propre raison funèbre. Le voilà nanti d'un but. Pour l'instant, son travail s'est arrêté là. Les choses doivent mûrir. Il lui faut accepter son rôle avec impatience. Pareil à ces peintres japonais qui respiraient une fleur durant des heures avant de la dessiner d'un trait, les yeux fermés. Mentalement, il rectifie sa position sur le socle de marbre. Parfois, pourtant, le doute s'insinue. Et s'il ne s'agissait que d'une fuite, d'une banale peur du monde et de la vie? Fatigué, il décide d'interrompre ses recherches pour se préparer de grandes tartines de Nutella. Il a débranché son téléphone, baissé les stores, éteint les lumières. Il s'est calfeutré dans la chaleur d'une pièce cocon, comme Proust dans son bureau capitonné. Il s'est même enfoncé des boules quies dans les oreilles, niant l'extérieur pour mieux descendre en lui-même. Allongé sur la moquette dans l'obscurité propice, son stylo au bout des doigts, il attend religieusement. Il ne répond plus au téléphone. Les gens l'ennuient, le dégoûtent, ne songent qu'à eux. Leur égoïsme est désespérant. Ils ne vous aiment que pour ce que vous leur apportez. Il préfère donc rester seul et lire, dans le dialogue avec les grands auteurs, les grandes intelligences. Voilà 2 jours qu'il n'est pas sorti. Sans doute l'ont-ils remarqué et se perdent-ils en conjectures. Il ira ce soir au Bagdad Café et restera superbement silencieux. Par avance, il en savoure l'instant. Le téléphone interrompt ses pensées. Il se délecte à la répétition pressante des sonneries. Décidément, ils ne peuvent pas se passer de lui. Avec une condescendance amusée, il répond à la 12e. Il s'agissait d'une erreur. Morose, il empoigne son pardessus et sort dans la ville. Il a trop mangé de Nutella. Résultat, il a mal aux dents. Ça le lance au niveau d'une molaire du fond. Il sait bien que cela va passer, mais il a mal quand même. Que faire ? Il est tenté d'appeler Françoise, mais n'ose pas. Elle voit à longueur de journée son lot de grands malades et n'apprécie guère qu'ils se plaignent pour des bobos. Déprimé, il se gave depuis le début de l'après-midi de doliprane et d'aspirine. Ah, cela ne remplace pas le câlin que venait lui faire mère lors de ses rages de dents d'enfance. Sa joue ronde contre la sienne, les massages du bout des doigts magiques et apaisants, les tisanes qu'elle lui préparait, les mouchoirs humides qu'elle lui posait sur le visage, les petites chansons qu'elle fredonnait. Une larme très pure roule le long de sa joue. Il n'y a pas de vie après l'enfance. Il attend depuis des heures et rien ne vient. De temps en temps, un klaxon de voiture le sort de sa somnolence, puis c'est une sirène d'ambulance qui lui martèle la tête. Ah, comment travailler à Paris dans un tel vacarme ? Pour se concentrer, il a besoin de sérénité, de calme, de chants d'oiseaux. Une idée lui vient, la piaule de Lucien en Normandie. Il l'appelle, lui demande si elle est libre, et 30 minutes plus tard, il est sur l'autoroute, direction Rouen. Quand il arrive, il est tout juste 5 heures. Il trouve sans peine la clé cachée sous le pot de géranium, ouvre toutes les fenêtres, les compteurs d'eau, d'électricité, prêt à passer 3 jours de retraite peinard dans un silence religieux. À 6 heures, il s'installe sur la table du jardin avec un paquet de bichoco et une ramette de papier. Les feuilles restent vierges, mais le paquet de bichoco se vide. La nuit tombe et un drôle de silence s'installe, lourd, pesant. La maison de Lucien est à 3 kilomètres du premier village habité. On n'entend que les grenouilles qui poussent leurs cris monotones et plaintifs. Ils se mettent en quête d'un peu de musique, mais la chaîne de Lucien est hors service. Quant à la télé, son ami n'en a même pas à Paris. Il sent qu'il va flipper, et rien que d'y penser, ça le fait flipper. Le paquet de bichoco est vide, et le silence se fait total. Comme si les grenouilles avaient perçu quelque présence secrète et menaçante. Il tousse à plusieurs reprises. Le bruit de ses bronches ne le rassure guère. En 2 minutes, les compteurs sont éteints, les fenêtres bouclées, la clé sous le pot de géranium. Il fonce sur l'autoroute, une cassette de relaxation dans son autoradio. Avec un peu de chance, il pourra être dans son lit vers 1h du matin. Françoise l'inquiète. Ses colères, ses récentes crises de mauvaise humeur, de toute évidence, elle cherche à empiéter sur son propre univers. Pourtant, tout était clair au départ. Il devait vivre en célibataire, chacun de son côté, et se retrouver chez elle, son appartement est plus grand, les vendredis, samedis et dimanches. Or, Françoise se plaint, elle râle, dit qu'il arrive pour mettre les pieds sous la table, lui, et la traite en boniche. Elle lui reproche même certaines liaisons extérieures. Diable, ils ne sont pas mariés. En fait, il sait bien où elle voudrait en venir. Elle cherche à gagner du terrain, voudrait l'annexer, la voir tous les jours à elle pour une vie banalement conjugale. Merde, il n'est pas Monsieur Dupont ni le garagiste du coin. Quant au ménage et à la vaisselle, elle devrait savoir depuis longtemps qu'il a la peau trop fine. Le moindre détergent lui brûle les mains. Mère le lui a pourtant dit et répété. Il est invité à un vernissage. Il songe avec dégoût qu'il y aura là les cancaniers habituels, Perroran en costume crème et cravate à pois. Bon, il n'ira pas. Ou plutôt si, il ira, mais en jean et blouson de cuir. Ils verront bien ce que c'est qu'un écrivain libre. Il passe une demi-heure à essayer des fringues, se trouvant tour à tour trop provocateur, pas assez, trop prolo, un brin vulgaire. Puis soudain, c'est l'idée de génie. Il mettra une veste de costume et un jean délavé. Cocktail féroce du nouveau et de l'ancien, du classicisme et de la modernité. En fait, la définition même du style d'écriture qu'il a toujours recherché. Un pont vers l'avenir dont l'arche prend assise sur les berges de la solide et vieille culture européenne. Tout un programme dans une tenue vestimentaire. Il s'habille, le sourire aux lèvres. glisse une gauloise au bout d'un porte-cigare nacré et sort dans la rue, affectant la nonchalance de ceux qui se savent regarder. En débouchant place Saint-Michel, il rencontre Geoffrey et Eudes, deux collègues coutumiers des vernissages parisiens. Toisant l'un des écrivaillons, il découvre, pâlissant, que son idée n'était pas aussi originale qu'il l'avait cru. Il était en train de taper à l'ordinateur lorsqu'il a aperçu un cheveu sur le clavier. Il l'a négligemment jeté au sol, mais en a repéré un deuxième entre les interstices des touches. Cela lui a soudain remis en mémoire que depuis quelques jours, il trouve des cheveux sur sa tête d'oreiller. Il court à sa chambre et passe l'inspection des draps. 8, 9, 10, 11 cheveux. Il promène sa main sur son crâne et n'ose même pas regarder. Rien qu'au contact, il sent qu'il a au moins 2 ou 3 cheveux morts entre les phalanges. Il est pris de panique. À chaque passage de main, il en vient par poignée sans même avoir à tirer. Il n'y a plus de doute, il devient chauve. Au rythme d'une 100aine de cheveux perdus par jour, il n'en a plus pour longtemps. Avant la fin de l'année, son crâne sera lisse comme une bille. Il doit agir, faire des traitements, consulter des spécialistes. Des changements draconiens dans son alimentation s'avèrent indispensables. Il se regarde dans le miroir et constate comme une petite clairière déboisée tout en haut de son crâne. Le processus est sans doute enclenché depuis plusieurs mois, et dire qu'il ne s'en était pas rendu compte. Il songe un instant à mettre fin à ses jours.
Encore heureux, encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B.
Il a fait couper ses cheveux très courts. Cela lui a semblé la meilleure solution pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ainsi, la dépouille des cheveux morts répandus sur le carrelage l'obsède moins. Son coiffeur l'a un peu rassuré. Il paraît qu'à certaines saisons de l'année, nous perdons jusqu'à 100 cheveux par jour. L'automne est notamment la saison la plus terrible. Et même si nous sommes au cœur de l'été, il ne doit pas s'inquiéter. Relativiser. Il est cependant ressorti de la boutique avec une bonne dizaine de lotions en tout genre, et un mot nouveau dans son vocabulaire, un mot terrible à ne prononcer qu'à voix basse. Alopécie. Il en a parlé au téléphone à mère. Selon elle, il s'agirait d'hérédité. Son père avait lui aussi un peu de tonsure et les fameux ailerons sur les bords du crâne. Peu convaincu, il s'est renseigné, il a lu des articles dans Santé Magazine, il a même acheté un livre dans la collection Marabout, « Avoir des cheveux sains et forts à tout âge de la vie », écrit par un professeur de la faculté de capillothérapie. Il a trouvé son cas dès le deuxième chapitre, les œstrogènes. Il a trop d'œstrogènes, c'est-à-dire, en clair, trop de puissance sexuelle. C'est ce qui lui donne ses cheveux gras avec des glandes sébacées gonflées à bloc qui étouffent la racine. Le livre parle d'un remède, le houblon, que l'on peut prendre en gélule. Il allait foncer à la pharmacie lorsqu'un alinéa de bas de page l'a arrêté. Le houblon diminue les sécrétions sébacées en tempérant les ardeurs sexuelles. Oh, le dilemme est cornélien. Perdre les cheveux ou bander mou. Quand il songe à la demande des femmes en la matière, aux appétits de Françoise, de Claire et de tant d'autres, il n'a plus envie d'essayer le houblon. Il ne veut pas finir comme un de ces buveurs de bière adipeux à la turgescence molle. L'image de Yul Brynner, cet acteur américain du bon vieux temps dit western, lui revient en mémoire. Bon, il avait tout de même beaucoup de classe dans Les Sept Mercenaires. Il a pris de grandes décisions. Fini de papillonner, de s'éparpiller, d'avoir 1000 projets et de n'en mener aucun à terme. Il va s'obliger à une rigoureuse grille de travail, des horaires stricts. Il s'imposera un véritable bagne. Les grandes œuvres sont à ce prix. Il a déjà 33 ans. L'âge du Christ, lors de sa crucifixion, il n'a plus de temps à perdre. Il a besoin de méthode, d'ordre, d'organisation. L'acte numéro 1 est de s'acheter un grand cahier répertoire sur lequel il notera son emploi du temps. Au supermarché, entre deux rayonnages, il rencontre Lucien, qu'il a connu lorsqu'il était inscrit aux Beaux-Arts en auditeur libre. Il lui fait part de ses projets. Lucien est un peintre talentueux, mais qui ne soigne pas assez sa carrière. Il l'entraîne au Café du Coin pour le convaincre d'adopter lui aussi une ligne de conduite. Des horaires réguliers, le téléphone sur répondeur, une bonne hygiène alimentaire, le secret de la réussite est là. Lucien vient de découvrir les bienfaits du jogging. Il est persuadé qu'il ne peut y avoir de création sans oxygénation du cerveau. Lui parle d'Isaac Newton qui a eu l'intuition de la loi de gravitation en allant faire une promenade dans son champ de pommiers. Si ce n'est pas une preuve, ça. Le sport régénère les cellules et permet à la créativité de s'épanouir. Chacun campe sur ses positions. Nécessité de s'organiser, nécessité de pratiquer une activité physique. À la troisième bière, ils se mettent d'accord sur un consensus, ordre et sport. Demain matin, il s'achètera un survêtement et des Adidas. Il n'a que trop négligé son oxygénation. 6h du matin. Le réveil vient de sonner. Il se lève avec l'entrain d'un condamné à mort que l'on vient chercher à la petite aube. Le premier jour de son nouveau plan de travail, debout aux aurores, commence mal. Bien plus mal que ce qu'il avait imaginé en le décidant hier soir dans la fébrilité et l'enthousiasme. Oh, pas de panique, ce n'est que le premier jour, manque d'habitude. Il se frotte les yeux face à la page blanche, laisse passer les secondes, s'endort à moitié, se pince pour se réveiller, sursaute, et soudain c'est l'évidence, l'illumination aussi éclairante que celle de Proust avec sa Madeleine. Il n'a rien à dire. Et pourquoi n'a-t-il rien à dire? Parce que la vieille Europe n'a rien à dire. Ah, s'il était né chilien ou guatémaltèque, s'il avait eu la chance de connaître les dictatures, la torture, les escadrons de la mort, les disparitions, sans doute aurait-il pu inventer une littérature forte et virile comme celle de Neruda ou de Vargas Llosa. Mais il est né douillettement à Maison Lafitte, avec une mère qui tient une galerie d'art et l'a inscrit pour un virement bancaire à perpétuité. Le doute s'insinue. Peut-être devrait-il refuser ce chèque mensuel et ne garder que son RMI ? Ah, oh, pas question, il doit accepter sa vie avec courage. S'il n'a rien à dire, il en fera la matière même de son œuvre. Il sera le chantre de la vacuité. Ragaillardi, il court prendre une douche en sifflotant. Mais soudain, la savonnette lui glisse des mains et il ne sait plus si ses yeux sont mouillés d'eau ou de larmes. Cioran, Pessoa, Beckett ont déjà dit tout ça. Son époque est maudite. Les écrivains n'ont même plus le droit de dire qu'ils n'ont rien à dire. C'est du déjà dit. Il croque avec dépit dans une biscotte et court se recoucher.
No. Bum, bum, bum.